Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Voilà, nous avons le plaisir de retrouver Patrick Coste sur le qui va nous parler de l'éducation, sujet éminemment sensible donc, puisque c'est la rentrée scolaire, et que nous parlerons de ce rapport PISA de l'OCDE qui a fait état d'une baisse sensible, mais pas tant que ça. On va peut-être en dire encore un mot de cette baisse dans deux domaines clés quand même, les mathématiques, et moi je dirais que l'enseignement du français est très important, également dans la compréhension des textes. Patrick Coste, bonjour.
Bonjour, bonjour aux éditeurs.
Alors, comment voyez-vous cela? Il y a ce problème de... Oui, quand on dit que c'est important pour l'enseignement des mathématiques et l'enseignement du français, est-ce que vraiment... oui, on en a dit un mot déjà, ce n'est pas si catastrophique que cela. Il faut s'y pencher, il faut y réfléchir. On verra peut-être qui y réfléchit, mais on le verra ultérieurement. Pour l'instant, on va parler quand même de la famille, du rôle de la famille, du rôle des parents. Famille en mutation, ça n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 50 ans.
Alors, je crois que le lien de la famille à l'école, pour comprendre ce qui se passe aussi dans l'école, est effectivement une question sur laquelle... il faut aller y regarder et essayer de comprendre. À partir de là, il faut voir comment la famille a évolué. Je vais faire une présentation un peu schématique. Hein. Je vais forcer un peu le trait dans mon explication pour être compris. Mais dans la famille moderne, que je vais situer jusqu'à la fin quasiment des années 60, il y avait une conception qui était sous l'autorité paternelle. Hein. C'était la loi du père en psychologie, en psychanalyse, si vous voulez. La fonction symbolique du père est tout à fait déterminante. Bon. Et donc, quand on était à table, il y avait un attendu par rapport à l'enfant qui était nommé par le père, en quelque sorte. Et l'enfant qui était à table, s'il était susceptible de répondre de façon oppositionnelle par rapport à cette autorité des parents, on lui disait volontiers « on ne répond pas à ses parents ». Ce qui indique bien qu'il y avait une place d'autorité et de position seconde de l'enfant dans ce rapport à l'autorité.
Avec les inconvénients qui pouvaient en découler.
Alors,
aussi.
Je ne suis pas en train d'en faire une justification.
Mais je comprends, tout à fait.
C'est un état des lieux.
Oui. Hein,
ma manière de réfléchir est une manière de réfléchir fonctionnelle.
Entre tout et pas assez, c'est ça.
Je ne porte pas des jugements. Hein, ce sont des observations et des analyses qui m'intéressent. Ce qui se passe dans la famille contemporaine, donc je dirais qui commence à partir des années 70 et qui ne cesse d'évoluer, on a une situation où la famille, chacun des individus qui la composent, suit davantage sa propre ligne de désir de plus en plus individualisée. Et donc, ça se signale, bien sûr, par ce qu'on appelle les familles décomposées. Hein, chacun est avec ses horizons de désir, et donc il y a un éclatement, une fragmentation de la solidarité familiale.
Surtout qu'il y a beaucoup de familles monoparentales.
Et un des effets induits sont les familles parentales. Le sacre du mariage, qui était un grand récit sacré et transcendantal, a perdu beaucoup par rapport à ce qui soutient la structure familiale. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces lignes de désir qui sont un peu fragmentées se rassemblent autour de l'enfant, qui devient la place prépondérante et qui permet de tenir dans la durée cette composition familiale qui, par un de ses versants, est fragmentée. Et donc, dans mon explication, si dans le premier cas, c'est-à-dire la famille moderne, l'enfant était dans une position seconde par rapport à un attendu, il évolue de plus en plus dans la première place vers laquelle on va faire converger toute la préoccupation.
On parle de l'enfant roi.
Et alors, moi, j'ai une formule.
C'est un peu excessif. Peut-être.
J'ai une formule qui est de dire que on vient servir l'enfant à épanouir, absolument. Et c'est un absolu de l'épanouissement. Et donc, il suffit qu'il bouge un sourcil, on a déjà anticipé sa demande et son besoin. Et donc là, il y a un changement des places. Et donc, cette position de l'enfant, que les parents viennent servir, ils ont aussi cette demande-là par rapport au maître à l'école. Et donc, la norme collective, les cultures d'ensemble doivent être mises au service de cette singularité de l'enfant qui est devenu l'auteur lui-même de son propre développement, dans une sorte d'évolution vers un égocentrisme. Donc il y a bien une mutation, si vous voulez, des positions de la famille qui vont avoir des effets induits très importants, par exemple sur la question de l'autorité.
Oui, parce que finalement, beaucoup d'enfants sont élevés par des mères seules.
Alors, c'est un des effets induits de, oui, de cet éclatement des grands récits, mm-hmm, hein, qui c'était des sortes de contrats sur lesquels il y avait des engagements éternels. Hein. Et donc, on prenait sur soi...
Et un partage des tâches, d'une certaine manière.
Il y avait ensuite des fonctions hommes, des fonctions femmes, avec une domination de l'homme. Hein. Donc, on ne peut pas tout regretter dans cette histoire-là, loin de là. Et on a heureusement beaucoup évolué à cet égard.
Bien sûr.
Mais pour le sujet qui nous occupe, c'est une évolution de la place de l'enfant. Et ça a effectivement un effet sur la définition qu'est en train de prendre l'autorité. Hein. Il y a une crise de l'autorité aujourd'hui. Il y a dans la société un certain nombre de désordres qui viennent des mineurs qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a une évolution des comportements des mineurs qui indique que la responsabilité de l'adulte vis-à-vis de ces mineurs a perdu du terrain. Bon. Et donc, dans les classes, ça se retrouve également. Si l'enfant est l'auteur dans la famille, si c'est lui le premier, hein, on développe de plus en plus une position de l'adulte, y compris sur le plan pédagogique, pour servir cet auteur, celui qui est devenu au centre. Et donc, il y va des pédagogies actives, des choses formidables sur le plan des pratiques. Mais c'est une adaptation à une évolution des subjectivités qui se fait aussi dans la famille par rapport à la place de l'enfant.
Alors, il y a également le refus de l'autorité et également le refus du jugement.
C'est-à-dire que dans la famille, partons de là, puisque c'était notre point.
Si on juge l'enfant, on juge le parent.
On ne contrarie pas. L'enfant. C'est-à-dire que si on gomme les conflits.
Ouais.
Et donc, parce que les parents deviennent les intercesseurs de cet épanouissement. Et donc, s'il y a un jugement sur l'enfant, c'est la reconduction d'un jugement, hein, c'est dans la philosophie de Nietzsche. C'est une position toujours de domination de l'un sur l'autre, celui qui porte le jugement. Donc le jugement est un renversement de cette position égocentrée de l'enfant. Donc ça occasionne une tension, et les parents derrière de cette époque contemporaine, qui sont dans cette intention d'épanouissement de leur enfant, ne comprennent pas qu'il y ait un certain nombre d'actes de discipline, d'actes d'évaluation aussi, qui sont susceptibles de se faire sur l'enfant, leur enfant est une exception. Et donc, qu'on le situe dans des cadres d'ensemble, ça contrarie, finalement, la place qu'il prend au sein de la famille. Et donc là, il y a des incompréhensions et des tensions.
Oui, des tensions, il y a beaucoup de points de tension. Par exemple, pour les histoires de harcèlement, qui ne sont pas toujours bien perçus et bien traités. Il y a également les problèmes de carte scolaire qui ne sont pas forcément acceptés, de violence, les devoirs à la maison. Parfois, les parents protestent s'il y en a trop ou s'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de cas de tension de la part des parents.
C'est-à-dire que... en ce qui concerne les devoirs à la maison, en ce qui concerne le premier degré, on est presque sous un règlement qui est celui qui les écarte, voire qui les interdit, hein, pour ne pas créer de l'inégalité sociale entre ceux qui peuvent accompagner le travail à la maison et ceux qui ne peuvent pas. Bon. Et puis, y a d'autres raisons, mais les enfants sont à la maison dans le divertissement à un tel point que le travail concentré à la maison dans sa chambre est une dimension qui s'est perdue. Hein. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, les conduites de l'école viennent de façon générale se heurter à cette volonté qu'ont les parents de servir le maximum de la satisfaction de leur enfant. Là, il y a de toute façon une tension qui devient une tension structurelle.
Est-ce que ce n'est pas parce que l'enseignant représente un pouvoir, c'est-à-dire il est du côté des décideurs et des juges?
Alors,
on n'aura pas trop le temps là, je sens que on n'a plus qu'une minute, je suis désolé Patrick.
La transmission d'un savoir, c'est l'accumulation de milliers d'années de culture. Et donc, pour arriver à connecter cette singularité de l'enfant par rapport aux conditions du savoir et de la transmission, c'est la singularité qui se heurte à des récits d'ensemble. Donc, il y a aussi une difficulté par rapport à la question de la dimension du savoir.
Exactement. Un grand merci en tout cas. Et je vous donne rendez-vous ainsi qu'à nos auditeurs à la semaine prochaine. Au revoir.